Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je deviens parrain, qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité un jeune homme aux multiples facettes. À 28 ans, alors qu'il travaillait dans le secteur de la food, il a changé d'orientation pour réaliser son rêve de gosse, bosser dans la mode. Après avoir œuvré dans des maisons prestigieuses à l'instar de Balenciaga ou encore Louis Vuitton, Adrien Garcia a monté le podcast Entreprendre dans la mode en septembre 2017. Il vient de créer Réuni, une marque de vêtements confortables, élégants et au prix juste. Bonjour Adrien.
Salut Valérie.
Ça te va comme résumé?
Ouais, c'est vachement bien. Et ça m'épate toujours quand j'écoute tes podcasts. Tu fais à chaque fois ça et ça me rend... Je me dis, je devrais faire ça sur mes podcasts aussi, mais j'ai pas la patience de le faire, tu vois.
Tu présentes les gens pourtant?
Non, je demande aux gens de se présenter.
Ah ouais, je le sais, je suis passée, mais il y a très longtemps.
Il y a super longtemps, je crois que c'était 23e épisode, ouais. Alors qu'il y en a 137 aujourd'hui.
T'imagines? Alors toi, un parcours extraordinaire?
Ouais, t'es gentil.
Non, mais c'est quand même dingue.
C'est atypique, ouais.
Atypique, voilà. Alors, est-ce que c'est bien d'être atypique ou pas? Bonne question.
Bah, je crois, ouais. Mmh. Ouais, moi, ça me rend très heureux d'être atypique.
Ouais, dit-il avec un grand sourire. Es-tu un jeune homme pressé?
Ouais, mais je me suis un peu calmé ces derniers temps, quand même. Je me suis rendu compte que vouloir faire les choses trop vite, ça rend pas forcément service. Et puis, je pense que je prends un peu de maturité. Je me dis qu'il faut prendre le temps aussi. Ça sert à rien de courir.
Tu as quel âge?
Je suis très vieux, j'ai 34 ans.
34 ans, d'accord. Alors donc, en fait, tu travailles dans la food. Tu m'avais raconté ton histoire. Tu travaillais, parce que finalement, on commence à se connaître depuis longtemps aussi.
Ouais, on se connaît.
Tu bossais chez Prêt-à-Manger, c'est ça?
Ouais, en fait, j'ai fait une école hôtelière en sortant de l'école. J'ai fait un MBA pendant 2 ans. Et puis après, j'ai été bosser pendant 2 ans chez Alain Ducasse. Tu sais, le grand chef,
ouais,
Alain
bien
Ducasse.
Sûr.
Et puis après, j'ai été recruté chez Prêt-à-Manger, ouais, dans le sandwich. Et je m'occupais d'ouvrir le marché. Enfin, j'ai participé à mon humble mesure à l'ouverture du marché. Ouais.
Français.
Français.
Pardon. C'est ça. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un Prêt-à-Manger, souvent je pense à toi.
Trop bien.
Et du coup, t'as toujours rêvé de bosser dans la mode. Alors ça, je le savais pas. Tu vois, j'ai appris en préparant l'émission.
Ouais, j'ai toujours voulu être designer, faire des objets ou faire des vêtements, etc. Et la mode, ça m'a toujours vraiment beaucoup attiré, pour plein de raisons d'ailleurs, hein, parce que je trouve que la mode, c'est quand même un secteur, quand tu crées une marque de mode, où tu fais des trucs de malade. Enfin, tu fais plein de choses très différentes, tu fabriques, tu fais des images, tu vends, t'es commerçant, etc. Et je trouve que c'est quand même un des rares secteurs où ça regroupe
tout.
Plein de choses, quoi.
Tout?
Tout, pratiquement, hein.
Quand on parlait tout à l'heure, on parlait de la fast fashion en préparant l'émission.
Ouais.
Je disais oui, mais la fast fashion embauche beaucoup de monde.
Ouais.
Des vendeurs, fabricants, au marketing.
Au design. Enfin,
Je fais une parenthèse. Je ferme la parenthèse.
On ferme la parenthèse.
Que t'a apporté entreprendre dans la mode?
Ah, ça c'est une bonne question. Ça m'a apporté... Ça a cassé un peu un mythe, surtout. Je trouve que ça a désacralisé vachement les gens. Moi, je suis un petit gamin de la province. J'ai grandi à Oyonnax, dans l'Ain. Et je mettais vraiment les gens de la mode sur un piédestal en me disant, ce qu'ils font, c'est inaccessible pour moi, petit provincial. Et en les rencontrant.
Je te coupe, pardon. Ouais. C'est pour ça que t'as pas bossé, t'as pas fait des études de mode?
Ouais, c'est que, en fait, je me suis pas autorisé à faire
Tu t'es pas autorisé?
Ouais, études créatives. Je viens, dans ma famille, il n'y a pas d'architectes, il n'y a pas de gens qui sont dans la mode, il n'y a pas de journalistes, etc. Soit t'es commerçant, soit t'es policier, soit t'es ouvrier, etc. Et je pense que c'est très culturel et je m'étais pas autorisé à faire un métier créatif. Je me disais, mais non, mais, je vais pas être architecte, je vais pas être dessinateur, je vais pas être peintre, etc. C'est pas pour moi, c'est pas possible. Et finalement, en fait, j'étais
et encore
fait...
plus maintenant dans la mode.
Et ouais, et j'étais pas, je me disais bon bah je suis pas fait pour ça, donc je vais faire un truc, je vais être dans la reproduction sociale, tu vois, donc l'hôtellerie, la restauration, machin. Et finalement, en grandissant, la frustration elle devenait de plus en plus grande. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout lâcher à 27-28 ans pour retourner à l'école de mode. Et je sais plus c'était quoi ta question.
T'as fait non, je te disais qu'est-ce que t'as apporté à entreprendre dans la mode. Ouais. Je suis désolée, je t'ai coupé.
Ça a désacralisé.
Et ouais. Ça a désacralisé. Ça c'est fort ça.
Ouais, ça a désacralisé. Ça m'a aussi donné. Ça m'a permis de progresser aussi à l'oral, rencontrer les gens. Quand j'ai fait entreprendre dans la mode, je voulais rencontrer des gens qui m'impressionnaient beaucoup aussi pour être plus à l'aise en société. Moi, je suis un grand introverti, je déteste avec beaucoup de gens, j'ai du mal à prendre la parole en public, etc. Et en faisant ça, je me disais, je vais me forcer à rencontrer des gens qui m'impressionnent. Les premiers, ça sera horrible, je vais me pisser dessus à chaque fois. Et finalement, aujourd'hui, quand je rencontre des gens hyper connus et tout, je suis beaucoup plus à l'aise, quoi.
Bah, je peux te dire, je trouve que t'as pris en maturité, ou moins timide, je sais pas.
Carrément. Maintenant, je m'exprime beaucoup mieux, c'est plus facile, je trouve mes mots. Avant, j'arrivais pas à faire tout ça, c'était horrible. Et donc, ça m'a permis ça, tu vois. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires.
T'as fait un sacré casting quand même, hein, dans entreprendre dans la mode.
Moi, ça m'impressionne. J'ai réussi à avoir des gens dans mon podcast que j'imaginais jamais un jour pouvoir rencontrer.
Qui, par exemple?
Tu vois, Ramzan Touami, c'est souvent, je le cite souvent, mais ou même Vanessa Siward,
qui est un amour.
Ouais, qui est un amour qu'on adore. Marie-France Cohen, des gens comme ça. C'est mes héros, tu vois. Enfin, ouais. Quand j'étais au Yonah, je les regardais dans la presse, je faisais des recherches sur eux, ils m'impressionnaient énormément. Et donc, quand tu as la chance de les rencontrer, de rentrer chez eux, de t'asseoir sur leur canapé et de leur parler pendant une heure et demie.
Et de les faire parler.
Et de les
parce
faire
que
parler.
Tu
les fais parler. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis chanceux, quoi.
Et là, est-ce que tu t'es dit, mais finalement, je suis comme eux ou ils sont comme moi?
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis en désacralisant, c'est que finalement, la plupart se sont pris des grosses gadins avant de réussir, qu'ils ont leurs peurs, ils ont leurs faiblesses. C'est des humains, quoi, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que ça désacralise. Et que,
ça, c'est bien.
Et que finalement, c'est des humains, tu vois. Ils sont comme toi et tu les vois, ils sont en chair et en os. Le problème, surtout quand t'es loin et que tu vois les gens au travers du filtre des médias, de la télé, de la presse.
Et des réseaux sociaux, maintenant.
Ouais, et des réseaux sociaux, tu dis, c'est pas des vrais gens, en fait. Je sais pas, il y a une espèce de distance qui fait que tu penses qu'ils sont surhumains. Et en fait, non.
Tu dis, ils ont tout réussi. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, oh là là, mais un tel. Non, mais elle réussit tout. Elle n'échoue pas. Alors que c'est, tout le monde échoue.
Tu vois, par exemple, j'ai interviewé récemment Charlotte Chenet. Je vois que tu as un bijou Charlotte Chenet à la main. Elle, quand elle te raconte ton histoire de façon très simple, tu dis, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, elle a été stagiaire, elle a été en galère avec ses boss quand elle était chez Balenciaga, elle a bouffé son pain noir, quand elle a eu l'Andam, elle était enceinte jusqu'au cou, c'était pas si glamour que ça. Et tout ça, quand elle te raconte ça, tu dis, ah ouais, peut-être que c'est aussi accessible pour les autres, quoi, tu vois, ils en ont chié, en fait, avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est important de le dire. Tu n'interviews pas que des créateurs, hein, parce que tu as fait aussi des attachés de presse. Plusieurs.
Exactement. En fait, ma ligne éditoriale.
Tous les acteurs de la mode.
Ouais, c'est entreprendre dans la mode, c'est les acteurs et les entrepreneurs de la mode.
Et puis, tu as interviewé Valérie Tribe aussi.
Ouais,
ce qu'on disait tout à l'heure. J'aime bien parler de moi à troisième personne. Pourquoi Réunis? Parle-nous de Réunis.
Ah ouais, Réunis. C'est une longue histoire, là, tu me lances sur un truc. Réunis, quand j'ai lancé Entreprendre dans la mode, au fond de moi, je voulais entreprendre dans la mode.
Tu savais que tu voulais faire quelque chose.
Je savais que je voulais faire quelque chose, mais franchement, je ne sais pas par quel bout le prendre. Je me dis que l'industrie de la mode, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché.
La concurrence est rude.
Ouais, il y a plein de modèles économiques possibles. Tu peux être en direct au consumer, tu peux être en wholesale, tu peux faire
de la précommande. Est-ce que tu peux traduire pour les gens qui écoutent Chiffon, qui ne sont pas des professionnels. Ouais. Attention, tu ne t'adresses pas qu'aux professionnels de la mode.
Excusez-moi. En plus, moi, j'explique tout dans mon podcast aussi. Direct au consumer, ça veut dire que tu vends directement à ton consommateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Tu ne vas pas être revendu, genre, au Galeries Lafayette ou chez Colette ou chez The Broken Arrow.
Feu Colette.
Ouais. le wholesale, au contraire, c'est que tu vends à des revendeurs. Mmh. Donc, tu vas vendre aux Galeries Lafayette, etc. Mmh. Et là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se servent.
Il y a
des intermédiaires. Et donc, tu vends un peu plus cher. Et en précommande, donc là, c'est le système de Réuni. Mais pourquoi j'ai fait Réuni, c'est que en faisant le tour et en interviewant plus de 100 personnes, j'ai identifié des modèles économiques et surtout... j'ai eu une grosse prise de conscience. Je pense qu'on a tous eu une prise de conscience sur notre obligation de changer notre façon de consommer, de notre façon de produire, etc.
Des notes à chaque fois.
Ouais, je prenais des notes. Je me faisais mon petit calepin, etc. Mais en fait, j'ai fait aussi entreprendre la mode pour réfléchir et pour brainstormer et essayer de trouver le bon créneau. Et en fait, quand j'ai rencontré Marie-France Cohen, justement, elle m'a dit mais Adrien, il ne faut pas entreprendre dans la mode. Il faut sauver la planète.
Ah,
il faut arrêter de faire des marques de mode de merde, tu vois. Et quand j'ai eu ça, moi, en sortant de cet épisode, je me suis dit, putain, elle a raison, mais en même temps...
Que tu parles souvent. J'ai fait une revue de presse sur toi, tu parles souvent d'elle.
Ouais, je parle très souvent d'elle. Et en sortant de cette interview, je me suis dit, OK, elle a raison, mais en même temps, moi, j'ai pas envie de lâcher mon rêve. En fait, j'ai tout lâché pour réaliser mon rêve. Je vais pas arrêter mon rêve parce qu'elle me dit ça. Je me suis dit, par contre, si je fais quelque chose, il faut que c'est vraiment du sens, il faut que ça soit porteur de valeur, etc. Il faut que ça soit une mode éco-responsable, tout ce que tu veux, quoi. Et donc, en avançant, etc., j'ai interviewé d'autres personnes, et notamment un garçon qui s'appelle William Ovett, qui, lui, avait créé une marque en précommande pour l'homme. Et c'est vrai qu'il répondait à pas mal de problématiques de surconsommation, de surproduction, de faire des vêtements qui ne correspondent pas aux envies des gens, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Donc, j'ai vraiment continué à réfléchir, à cogiter, à trouver un nom, etc. C'est long. En fait, il faut vraiment maturer, il faut digérer, etc. Et j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais créer une marque de prêt-à-porter pour femmes, co-créer avec sa communauté. En fait, on co-crée chaque produit avec notre communauté et on les vendra en précommande uniquement pendant une période donnée et les produire juste après les avoir vendus pour éviter les surstocks, la surconsommation, la surproduction.
Donc, le premier produit, ça a été un pull.
Ouais.
Moi, je l'appelle le parfait pull marine. Alors, il existait en trois couleurs.
En quatre couleurs.
Donc, il a fallu passer commande sur Ulule. Et tu as eu 700 et quelques commandes.
750
commandes.
Ouais. Ouais.
Tu as fabriqué, il a fallu attendre.
Ouais.
Tu as fait fabriquer les 750 pulls. Maintenant,
et ensuite, on a livré.
Question. Pourquoi on ne peut plus le retrouver maintenant, ce pull?
On ne peut plus le retrouver en ce moment parce que, justement, le concept, c'est vraiment de vendre uniquement
à la commande.
Et on veut pas faire de stock. Le problème on aurait pu produire 150, 200, 300 pulls de plus, mais le problème c'est qu'on prend le risque de pas les vendre. Et quand tu dis pas vendre, tu peux pas te permettre quand tu es une jeune entreprise d'avoir du stock sur les bras, donc c'est-à-dire brader les prix.
Bien sûr.
Et brader les prix, c'est pas forcément quand t'as le prix juste, ça veut dire que tu perds de l'argent. Donc on veut pas prendre ce risque-là et surtout on se dit ce pull-là, il va revenir l'année prochaine. En version améliorée, en version en V2. Ça serait la génération du gros pull d'hiver numéro 2. Et on prendra tous les feedbacks des gens qui l'ont reçu, qui l'ont porté, qui l'ont lavé, etc. Et on l'améliorera. Et on veut faire ça avec tous les archétypes du vestiaire féminin.
Donc, la prochaine étape, c'est la chemise.
Ouais, on bosse sur la chemise en ce moment.
Ah, tu sais pour quand, à peu près?
Je pense que ça sera fin mars, début avril.
Alors, on peut dire aux auditeurs qui ne te connaissent pas, ce qui est extraordinaire, il faut aller sur le site internet de réuni.com.
Ouais, exactement.
Et là, tu peux participer à la création de la chemise.
Exactement. Alors aujourd'hui, c'est plutôt sur Instagram, mais bientôt
alors,
sur notre site.
C'est Instagram.
Réuni.co sur Instagram et bientôt sur réuni.co, notre site internet. On est en train de le construire.
Donc c'est génial. Moi, je le fais à chaque fois, je me prête au jeu. Donc le pantalon parfait, la chemise parfaite.
Alors, le t-shirt
ça
parfait.
Passe par la couleur, la forme du col, la longueur.
Ouais. L'amplitude, la hauteur, est-ce que ça arrive au niveau des hanches, en dessous les fesses, etc. quel col, tu vois, par exemple, sur la chemise, on demande c'est quoi le col parfait? C'est un col plutôt à l'anglaise, à la française, col Mao?
Non, pas col Mao.
Surtout pas col Mao. Est-ce que c'est plutôt ample? Est-ce que c'est plutôt large? C'est quoi les problèmes, surtout avec vos chemises? En fait, l'idée de faire de ce questionnaire, c'est d'identifier tous les problèmes et comprendre ce que veulent vraiment les gens. Notre parti pris, c'est de dire si les gens, si on leur fait le vêtement qu'ils veulent et qui correspond à toutes les problématiques qu'ils ont avec les autres chemises, et ben c'est des produits qu'ils vont vouloir porter et garder longtemps, qu'ils vont vouloir chérir. Ils feront attention quand ils les laveront. Et pour nous, c'est notre réponse à ce problème de surproduction et de surconsommation.
Mais en fait, tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à une couturière.
Ah ouais?
Tu sais, dans les années 50... Non mais,
oui, c'est vrai, t'as raison.
Mais 40, 50, années 30 même. Et ouais. Non mais tu venais chez une couturière, tu lui demandais de fabriquer une robe, ouais. Une chemise... Elle mettait du temps pour la faire. Et puis, il y avait une vraie réflexion. Il y avait qu'il fallait faire le patron, etc. Et ouais. Tu me fais penser à ça.
Ah,
on ne te l'avait jamais dit.
Non, mais c'est un joli compliment.
Quel est ton style au quotidien?
Ah, il a beaucoup évolué, mon style. Mais en ce moment, c'est plutôt... moi, je suis à la recherche du confort. C'est horrible de dire ça.
Mais pourquoi?
Non, mais parce
tout
que...
Tout le monde.
Ouais, mais je ne suis pas hyper élégant. Et souvent, on me reproche de ne pas être très élégant. Surtout ma belle-mère que
tu
je salue.
Pas... Ta future belle-mère.
future belle-mère, ouais. Qui trouve que je ne mets pas assez de chemise. Mais en fait...
Parce que pour elle, l'élégance passe par la chemise.
Ouais. La chemise, la veste, le joli pantalon, les jolies chaussures bien cirées. Et moi, j'ai un côté... en fait, c'est simple. C'est que quand j'étais à l'école hôtelière, on me faisait porter un costume dégueulasse, tu sais, en polyester.
Noir, avec la chemise blanche.
Affreux. Et des chemises tout le temps, etc. Et moi, je suis pas très grand. J'ai plutôt des cuisses assez imposantes. Et je me sentais pas bien, en fait. C'était pas moi, quoi. Et donc, j'ai été obligé de le porter pendant 3 ans d'affilée. Et je me suis dit, je me suis juré à moi-même que jamais j'aurais besoin de porter un costume de ma vie, quoi, ou même une chemise. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt en, tu vois, aujourd'hui, je suis en paraboots. Mais ça, c'est mon vestiaire quotidien, mon uniforme, quoi. J'ai mes paraboots, mes chaussettes noires, mon jean 501 noir, marron ou bleu ou blanc, mon t-shirt et un hoodie ou un sweat, et ou sinon une veste, tu sais, la veste Patagonia en polyester d'ailleurs recyclé.
Mais tu vas te marier comme ça?
Non, ben non, mais là, ça, c'est le vrai sujet, quoi. C'est le vrai sujet, et je réfléchis à alors, j'ai dit à ma future fiancée, enfin, à ma future femme, à ma fiancée, que je savais exactement ce que j'allais faire, mais je dois vous avouer que je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Tu devrais lancer un appel sur Instagram, des idées, comme
ouais,
tu fais pour
idées.
Réunis.
Exactement, exactement. Mais je pense que je vais me faire tailler un costard, bien sûr.
À quel âge as-tu trouvé ce style? Enfin, c'est après ton école hôtelière, tu t'es dit basta. Quand t'as quitté... Non, c'est quand t'as quitté...
Ouais, prêt à manger.
Prêt à manger.
Ouais, ouais, parce que même chez prêt à manger, tu vois, je devais porter la chemise. Alors, je portais des chemises de chez, je crois, Uniqlo, etc. Tu sais, en Oxford,
ouais,
un petit jean, les petites chaussures, la petite veste, etc. Mais c'était pas moi. Mm-hmm. J'étais pas...
Alors, c'est qui Adrien Garcia?
Bah, c'est un...
Je sais que tu rigoles à chaque question.
Ouais, parce que ça met mal à l'aise.
Mais non.
C'est qui Adrien Garcia? Bah, c'est un jeune homme de 34 ans qui
est cool.
Non, mais qui est tellement... Je suis pas cool. Je suis pas mais cool. Hein, franchement, je crois pas. Mais je suis tellement heureux, en fait. Je suis un jeune homme heureux qui réalise son rêve, qui rencontre ses héros et qui réalise son rêve de toujours de monter une marque de mode. Donc et qui est très amoureux de sa future femme et qui moi je trouve que j'ai une chance, j'ai le cul bordé de nouilles, quoi, de faire ce que je fais en ce moment. Donc
il y a beaucoup de travail derrière. J'ai de
ouais,
la chance,
mais
beaucoup
bon,
de travail
ouais, bien
aussi.
Sûr,
mais revenons à notre chiffon là.
Ouais.
Tu me dis que tu as de la chance de rencontrer des gens que tu admires. Justement, quand tu vas les rencontrer, est-ce que tu réfléchis à ta tenue ou pas du tout?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que...
En plus, c'est des gens de la mode. Alors, tu te
ouais,
dis, wow,
c'est des gens de la
moi,
mode.
Ça peut m'arriver. Hein.
Mais tu te rends compte que les gens de la mode, c'est pas souvent les mieux habillés. Hein. C'est assez rare qu'ils soient très élégants, parce qu'en fait, ils sont tellement dans le vêtement tout le temps qu'ils trouvent leur uniforme. Et en général, c'est plutôt un pantalon noir, un t-shirt noir, des chaussures noires. Ils sont pas très funky. Je crois que c'est plutôt les journalistes, les influenceurs qui sont un peu plus foufous avec leur marque. Avec leurs vêtements.
Leurs vêtements, je dirais même les influenceurs. Ça.
Non, mais je te dis vraiment, moi, j'y réfléchis pas trop, surtout, je veille à être bien dans mon fut et bien dans mes baskets.
Oui, c'est en ça que
l'aise.
Je disais que t'étais cool. C'est-à-dire que t'es à l'aise, t'as
ouais.
ton style, quoi.
C'est que, tu vois, ça me boudine pas, je suis à l'aise dans mon dans mes chaussures, dans mes baskets. Donc forcément, tu peux te focaliser uniquement sur ton interlocuteur, etc. quoi. Et ça, c'est hyper important, je trouve.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look ? Bon, à part ta belle-mère qui dit de porter des chemises, mais c'est pas un bon conseil, visiblement.
Waouh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit ça, mais je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est sois bien dans tes baskets, parce qu'en fait...
Tu l'as peut-être trouvé tout seul ?
Ouais, je crois que... Ouais. Non, mais je m'en suis rendu compte, en fait, c'est qu'à partir du moment où t'es bien dans tes baskets, ça se voit, ça s'entend, et en fait, on s'en fout comme t'es habillé. Je me rends compte que tu vois, je vais aller rencontrer un mec hyper important qui est peut-être qui bosse dans une marque de luxe, etc. Mais si j'arrive avec mes chaussettes, enfin mon jean retourné, etc. En fait, ça les choque pas parce qu'ils sentent que je suis bien dans mes baskets et que je suis sympa et que je suis intelligent, etc. Et que
ça, c'est un conseil que tu donnerais aux auditrices de Chiffon qui n'osent pas.
Ah ouais, il faut être bien dans ses pompes, quoi. Je veux dire, il faut pas se Il faut pas se déguiser, ouais. Il faut rester simple, il faut rester soi-même. Je trouve que ça, c'est un vrai truc.
Est-ce que tu suis la mode ?
De moins en moins. Ouais, de moins en moins, parce que avec Réunis, on fait pas de la mode. Parce que je pense que j'en ai bouffé pendant les 5 dernières années beaucoup trop. Et que je crois que... Il y a que les gens de la mode, hein. Il y a que les gens de la mode qui s'intéressent à la mode.
Et est-ce que tu suis la Fashion Week ? Les Fashion Week ?
Non, je ne les suis plus. Les Fashion Week, je suis désolé, hein, je réponds à chaque fois par la négative. Mais je ne suis plus les Fashion Week. Parfois, je suis invité au défilé, mais souvent, je n'y vais pas. Enfin, j'y vais jamais. En fait, j'y vais jamais. Alors là, je vais me faire hurler dessus, mais j'étais invité au dernier défilé de Jacquemus, par exemple. Mais j'ai pas été parce qu'en fait
il y a plein de gens qui tueraient pour y aller.
Ouais. Et je préfère ne pas y aller parce que en fait ça me défocalise de mon travail, de ma marque, de mon podcast et qu'en fait j'ai pas le temps, tu vois, de le faire. J'adorerais, franchement j'adorerais, mais sauf que ça te prend une matinée et moi je préfère faire un interview, je préfère bosser sur mes produits plutôt que d'aller voir une Fashion Week.
Et rester focus sur Réunis. Bah la Fashion Week c'est un peu un anti Réunis aussi.
Exactement. Ouais, mais en fait, je crois que c'est plus trop mes valeurs, en fait.
Et que penses-tu de la fast fashion ?
Alors, la fast fashion, c'est...
Réunis, c'est aussi de l'anti-fast fashion.
Ouais, ouais, on est aux antipodes de ça, et on a construit la marque un peu à l'encontre de ça. Avec Réunis, nous, notre motto, c'est de faire moins, mais mieux. C'est de produire des vêtements qui durent vraiment longtemps, des vêtements que tu vas chérir, que tu vas adorer porter. Et moi, j'ai le sentiment que la fast fashion, c'est un peu l'opposé de ça, quoi, tu vois. Après, elle existe depuis les années 80, 90, ça a créé beaucoup de jobs.
Même avant, H&M a été créé bien avant.
Ouais, même bien avant. Mais ça a créé du job, ça a rendu peut-être les gens heureux. Je pense qu'on a tous été gamins. Nos parents, ils nous ont emmenés chez H&M, chez Zara, etc. Et c'était très bien. Mais je pense qu'on rentre dans une époque où on a envie de moins, tu vois. Alors, moi, j'ai ce sentiment-là. Et quand j'en parle avec mes amis, mes proches ou les professionnels de la mode, tout le monde te dit, mais en fait, on n'a pas besoin d'autant de vêtements, autant de renouvellement, etc. Donc, voilà, c'est un peu mon sentiment.
Est-ce que tu crois que cette course à la consommation de fringues n'a pas été encouragée par les réseaux sociaux à un moment et que là, justement, on est en train de revenir à... On fait marche arrière.
Bah, je sais pas toi, mais moi, par exemple, mes réseaux sociaux, je les regarde une fois par jour, deux fois par jour maximum. J'essaie de me couper de tout ça.
Toi, t'as Entreprendre dans la Monde et Réunis.co, hein,
ouais, exactement. Et puis, t'as LinkedIn, et puis t'as tes emails, et puis t'as ton WhatsApp qui sonne toute la journée, etc. Et je me dis, pour pouvoir rester focalisé sur vraiment ce qui m'intéresse en ce moment, Entreprendre dans la Mode et Réunis, il faut se couper de tout ça. Et c'est faire moins, mais mieux, tu vois, c'est prendre le temps. Tu vois, par exemple, les interviews, j'en refuse beaucoup. Mais je me dis, avec Valérie, j'y vais parce que je sais que je vais prendre le temps de discuter avec elle et ça sera pas un truc à l'arrache, etc. quoi.
Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing ? Donc, visiblement, t'es cool, tu sais ce que tu veux.
Ouais. Bah, mon rapport avec mon dressing, c'est très simple. J'ai pas de dressing, en fait, parce que j'ai très peu de t-shirts, j'ai très peu de pantalons. Je dois avoir 3 pantalons, 10 t-shirts, un sweat et une veste Patagonia. Et ça tourne tout le temps. Et donc, en fait... ça passe plus de... En fait, ça passe pas par le dressing, parce que c'est machine à laver, pas sèche-linge, surtout pas le sèche-linge,
ça abîme
les habits. Mais je le mets sur mon tankerville, je sais pas comment t'appelles ça, un sèche-linge.
Tankerville.
Ouais. Et je les porte direct, tu vois, et donc ça passe pas par le dressing.
Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens absolument irrésistible? Il n'y en a peut-être pas.
Mon uniforme, je crois que ça marche bien. J'aime bien mettre ma veste aussi. J'ai une veste un peu en tweed que j'avais achetée chez Holiday.
J'ai remarqué que tu la portes à chaque fois que tu fais des conférences.
C'est la seule veste que j'ai, donc...
Donc en fait, les femmes, quand elles font des conférences, généralement, elles mettent des talons, ce qui est mon cas. Toi, tu mets ta veste.
Ouais, je mets ma veste Holiday.
Pourquoi ça donne confiance en toi,
Non, mais tu vois, je crois que c'est mon petit frère, mais c'est peut-être ma mère aussi. Tiens, je parlais de ma belle-mère tout à l'heure, mais ma mère me dit souvent « Mais t'es beau, mon fils, et tout. T'es beau, mon fils, mais achète une veste qui te met vraiment en valeur, etc. » Et puis maintenant, tu deviens un personnage public.
Tu vois qu'elle t'a reçu des conseils de mode.
Ouais, mais elle me dit « Mais maintenant, t'es un personnage public et tout. Il faut vraiment que tu fasses attention. Va chez le coiffeur, rase-toi.
Rase-toi.
Rase-toi, ouais. Ouais, rase-toi bien, etc. Ah ouais, la barbe, ma mère, elle a mis du temps à l'accepter. Hein. Elle n'aimait pas ça.
Ah oui, c'est pas
non,
propre.
Non, mais elle vient d'une génération où, son mari, c'était pas la mode d'avoir de la barbe, en fait. Mmh, il fallait être rasé de près, quoi.
Mmh. Avec l'aftershave.
Exactement.
Ménène.
Un beau mec, il est bien rasé, les cheveux courts.
Et sans le ménène.
Exactement. Une veste, une chemise, des chaussures bien cirées, et on est bon.
Et ta mère, comment elle était, justement? On n'a pas parlé de ta famille.
Ma mère, elle est
au
très
niveau
coquette.
De la mode.
Ouais. Ma mère est très coquette. Elle adore les vêtements. Alors, c'est pas une flambeuse, tu vois, c'est pas une acheteuse compulsive, mais je crois qu'elle sait très bien ce qu'elle veut et elle est très exigeante avec ses vêtements. Mais c'est pas une... Je suis pas sûr qu'elle aime la mode. Elle a beaucoup de goût. Elle s'est beaucoup amusée avec ses enfants à les habiller bien mignon, la coupe au bol, la petite chemise, le petit short, les petites chaussures. Mais je crois qu'elle a, ouais, elle a une, elle, elle a une, elle a une relation assez raisonnée. Alors mon père, lui, je crois que ils vont à chaque fois que je parle d'eux dans les podcasts, etc., et qu'ils écoutent, ça les rend dingue. Donc j'imagine que là, ils sont en train de péter un câble. Et mon père, non, il est...
Il y en a qui en profitent pour régler les comptes avec leur famille.
Ah ouais, ouais. Non, mon père, il écoute à l'ancienne, quoi. Hein.
Ouais.
C'est un gars des années 80, 90. Il était commercial pendant très longtemps.
Ah ouais, donc costume,
la petite chemise...
Rasée de près,
etc. et en avant Guingamp, quoi. Donc il a gardé ça, et aujourd'hui, il est plutôt... il évolue. Maintenant, il s'intéresse quand même vachement à Réuni et aux marques qui sont sur le même créneau. Et donc, il essaye plein de choses.
Et justement, Réuni, une petite parenthèse, est-ce que tu vas faire les hommes?
Pas pour l'instant. Pour l'instant, on se focalise vraiment sur les femmes.
Quel a été ton pire fashion faux pas?
Alors là, je crois que mon pire fashion faux pas, c'était une ceinture Dolce & Gabbana. Avec le D et le G, tu sais, en boucle. Un truc vraiment...
J'ai du mal à t'imaginer avec ça.
Non, mais c'est dingue. Je me suis... Mais c'est vrai que c'est horrible. Je comprends pas ce qui m'est passé par la tête.
Et c'était en plus, au moment où tu bossais dans la mode ou c'était...
Non,
t'étais dans la restauration.
J'étais plutôt ado, je crois. Je crois que j'étais c'était même avant. Ça, gros fashion faux pas, ouais. Ça, compliqué.
T'as cassé ta tirelire.
Ouais, j'ai acheté un truc de merde hyper cher que j'ai jamais porté, quoi.
Tout à l'heure, on parlait aussi du regard des autres. Tu disais que quand tu vas dans une personnalité, en fait, tu t'en fiches de la façon dont tu t'habilles, de toi. Si, par exemple, une personnalité, alors, je vais pas citer de nom, on va dire que tu interviews Jean-Paul Gaultier et il te dit que non, ton pull, il est vraiment pas beau. Je doute fort que Jean-Paul Gaultier fasse ça, mais on imagine.
Ça peut arriver.
Comment tu le prendrais?
Je dirais te faire foutre.
Carrément. Va te faire foutre, Jean-Paul Gaultier.
Non, mais franchement, mais qu'est-ce que...
Avec tout le respect qu'on lui
donne. Qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait?
Oui.
Non, mais je veux dire, moi, je te juge pas, donc avec tes marinières et tes boucles d'oreilles dans les oreilles.
Je précise que c'était juste une petite blagounette, une supposition.
Non, mais je veux dire, c'est... Non, mais je trouve ça insupportable que tu puisses porter un jugement sur les gens, sur la façon de s'habiller.
Et à l'inverse, toi, est-ce que ça t'arrive de dire à ta future femme « Non, mais attends, t'as vu comment t'habiller? T'es habillée comme un sac. »
Non.
Entendu dans Chiffon, hein.
Ah ouais?
Ouais.
Non, je me permettrai pas. Non, et puis en plus, elle est... Elle fait vachement attention à comment elle s'habille. Elle a envie de bien s'habiller. Elle vient de la mode aussi, hein. Elle fait de la mode.
Ouais, très cool.
Ouais.
J'ai eu l'honneur de la rencontrer à plusieurs reprises, elle est
et
très cool.
Ouais, et surtout, moi, je la trouve très belle, très élégante, et elle a une chance incroyable, c'est qu'elle a des épaules qui sont assez larges.
Ouais.
Et donc, tout lui va bien. Mmh. Et souvent, elle porte mes vêtements, elle s'habille souvent avec mes vêtements, et ça lui va trop bien, ça lui va mieux qu'à moi, donc ça me rend dingue. Et même quand elle est habillée en sac, je la trouve très jolie, donc...
Oh là là, c'est beau l'amour.
Déclaration d'amour, ouais, c'est clair.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Il faut jamais dire jamais, mais... Le vêtement que je porterai jamais, c'est... Je ne vais pas dire le costume, ni la chemise, mais...
Rendez-vous en juillet, j'attends les photos.
Non, je pense que les... Tu vois, une jupe, des vêtements de femme, je crois qu'on... Enfin, je n'y suis pas encore, alors que c'est...
On ne l'a jamais fait, celle-là. Un homme, ouais, une jupe, ouais.
Un vêtement que je porterai jamais, ça serait, ouais...
Un kilt.
Un kilt, ouais, un kilt. Je crois que ce n'est pas pour moi, quoi.
Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime n'importe quelle femme?
Il y en a plusieurs. Moi, je fonds quand je vois une femme dans un grand manteau. Tu vois, genre un grand manteau Max Mara, etc. Mmh. Avec une petite paire de bottines, les cheveux au vent, ou emmitouflée dans une écharpe, avec un chien. Non, mais je trouve que les manteaux, je trouve ça d'une élégance assez incroyable, quoi.
Et d'ailleurs, vous allez en faire un chez Réunis.
Ouais, on bosse sur un manteau ensemble.
Ah, mais alors, un long manteau.
Écoute, on a vu, on a commencé à bosser avec notre modéliste, parce qu'on a eu pas mal de retours déjà sur le manteau. Et
des gens veulent quoi? Un manteau plutôt long, plutôt court?
Bah, plutôt long, hein, mi-mollet.
Mais ça dépend de la taille.
Un
ça
grand
dépend
col.
De la taille des femmes.
Ouais, bien sûr, ouais. Mais plutôt manteau long. Couvrant, chaud, avec des jolies poches. Je ne vais pas tout dévoiler, mais franchement, c'est canon, quoi.
Quel est le vêtement qui, selon toi, ne va à aucune femme? Le truc qu'il faudrait interdire? Ou alors, tu es tellement cool que tu acceptes tout?
Non, moi, j'accepte tout. Non, encore une fois, je pense que tout est acceptable à partir du moment où c'est vraiment assumé et que
même
la fille est bien dans ses pompes, tu vois.
Les soutiens-gorge avec la bretelle en plastique?
Non, ça c'est n'importe quoi.
Je peux t'en sortir d'autres. Hein.
Vas-y, sors-moi dans d'autres.
Les hugs.
Bah, les hugs, tu vois. C'est vrai que c'est quand même pas la panacée, mais en même temps, il y a des filles à qui ça va vachement bien. Hein.
Et les crocs roses.
Crocs roses, ouais. Là, il faut y aller. Hein. Non, c'est dur.
L'accessoire est-il important pour toi?
Ouais, ça fait une silhouette. Hein. Bah, tu sais, moi, je suis designer. J'ai une formation de designer de sac à main. Et
ouais,
j'étais designer. J'étais assistant designer chez Balenciaga.
Quand je t'ai rencontré, t'étais chez Balenciaga.
Ouais. Et pour moi, ouais, le sac à main, c'est hyper important. Je trouve que ça finit vraiment une silhouette. C'est beau. Je trouve que c'est des beaux objets. Encore mieux, les chaussures. Je trouve qu'une bottine, une belle bottine, ça a vraiment de la gueule, quoi.
Non, à quand hyper... un sac chez Réunis?
Bah, on bosse dessus en ce moment. Mais je pense que ça sortira plutôt à la fin de l'année, quand même. Hein. Mm-hmm. C'est un gros, gros job, ça.
Comment tu t'imagines à 90 ans?
Alors ça... Moi, je m'imagine... un petit papy. 90 ans, ouais, c'est quand même vieux. C'est un petit papy en basket au bord de la Méditerranée ou dans sa maison de campagne, en train de faire le jardin encore. Moi, j'aime bien Pierre Rabhi. Genre, il n'a peut-être pas 90 ans, mais je trouve que Pierre Rabhi, il a ce côté... il est bien dans ses baskets, tu vois. Il a no style.
Apaisé,
ouais. Mmh. Il n'a pas un style de ouf, mais il est bien dans ses baskets. J'aimerais bien être un papy comme ça, tu vois.
Et souriant.
Souriant, heureux. Il a écrit des bouquins que je suis en train de lire en ce moment, tu sais, la sobriété heureuse, qui sont... je pense que ça sera... On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est quand même un des héros de notre époque. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le lire et qui vont le relire. Et je trouve qu'il montre la voie quand même.
Quel est ton dernier achat?
En vêtements?
Oui.
En vêtements, je me suis racheté une paire de Paraboots, tu vois.
Et ton prochain achat?
Mon prochain achat, franchement, j'ai envie de rien, c'est horrible.
Bah, c'est bien pour ton porte-monnaie.
Ouais, c'est bien pour mon porte-monnaie, mais mon prochain achat, c'est mon costume de mariage. Hein.
Ouais. Donc là, c'est assez conséquent, si
là,
tu le fais faire.
Ouais, c'est violent pour le...
Et tes spots fringues?
Mes spots fringues?
Ouais. Les marques.
Tout à l'heure, je te parlais de Beige Habilleur, où j'ai acheté mon hoodie que je suis en train de porter, un camber.
Hoodie, c'est un sweat à capuche.
Ouais, exactement. J'aime bien aller là-bas. Alors, c'est un peu loin, parce que c'est dans le 16e, etc. Donc, il faut prendre la une pendant longtemps. Et Holiday, moi, je trouve ça cool, même si c'est un peu cher parfois. Mais c'est de la bonne cam. Mon spot fringue, J'ai des friperies à côté de chez moi qui sont assez cool, où je trouve pas mal de t-shirts un peu vieux, mais de bonne qualité, tu vois.
Donc en fait, t'achètes plutôt en boutique ?
Plutôt en boutique, ouais, j'achète pas du tout sur Internet. Ouais.
C'est bien, tu vends réunis sur Internet.
Ouais, mais je sais qu'on se coupe de pas mal de gens, hein, et c'est pour ça qu'on va faire des pop-up stores à chaque fois.
Ah,
chaque
vous comptez en faire ? Donc ouais. On pourra pas acheter sur place, on commandera.
Vous commanderez sur place, ouais. C'est ce qu'on a fait hein, sur le lancement du gros pull d'hiver, on a fait pas mal de pop-up stores, des shop-in-shop. On était chez La Botte Gardiane, chez Maison Plisson, on a été aussi chez Désiré Fleur. Mm-hmm. Et c'est des commerçants qui nous ont accueillis, et on trouvait que leur univers et leur valeur surtout correspondaient à celle de Réunis, et ils ont eu la gentillesse de nous recevoir pendant une journée entière, et ça a vachement marché parce que les gens, mine de rien, bah, c'est ce que tu dis, ils ont besoin de voir, de toucher, etc.
Moi,
je suis
c'est important.
Que, ouais, je suis étonné que toi tu l'aies acheté sans
toucher. Ah, moi, je me suis. Non, en fait, j'ai voulu te soutenir. Donc, ouais. Et j'ai vu Pull Marine, comme je suis toujours dans la quête du parfait Pull Marine. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que.
Alors, c'est pas un Pull Marine, on dit que c'est un bleu gendarme.
Bleu gendarme, d'accord. C'est noté. C'est moins glamour. Hein.
C'est moins sexy, mais un beau gendarme, c'est joli quand même.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Ma définition de l'élégance, c'est... Je crois que c'est... pas facile. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Encore une fois, hein, je dis toujours la même chose, mais... Peu importe comment tu t'habilles, si t'es bien dans tes baskets et que ça se ressent, je trouve que ça, c'est quand même le comble de l'élégance. Je pense qu'il y a quand même une dimension confiance en soi, quoi. Je pense que l'élégance, c'est la confiance en soi avant tout. C'est prendre soin de soi, mais c'est s'habiller avec beaucoup de sensibilité, de sensualité, mais plus de sensibilité, en fait.
Mm-hmm. Et de s'écouter, surtout.
Ouais. Un truc qui me rend fou, c'est chez les filles. C'est quand les filles mettent leurs cheveux, tu sais, soit dans leur t-shirt, soit dans leur chemise. Ça, je trouve que c'est d'une élégance assez incroyable.
Mais il faut avoir les cheveux longs.
Il faut avoir les cheveux longs. Il faut avoir les cheveux longs, mais quand Alice, ma fiancée, a les cheveux longs, je lui demande de faire ça tout le temps.
J'espère qu'elle va écouter l'épisode, Alice.
Ah ouais, on parle beaucoup d'Alice. Hein.
Si tu étais, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Si tu étais une couleur.
Le...
Bleu gendarme.
Non, le jaune.
Le jaune ?
Ouais. Je trouve ça trop cool, le jaune. Enfin, c'est ma couleur préférée depuis que je suis tout petit. Et pour moi, c'est le soleil. C'est les tulipes jaunes. C'est quoi ? C'est les iris ? Non, c'est quoi ça ? C'est des...
Alors là, c'est une colle. Je ne sais plus. Ce sont des...
Je ne sais plus. Bon, on ne sait plus.
On lancera un appel.
C'est des fleurs jaunes.
Si tu étais une forme de pantalon ?
Ah, bah le 501, c'est pas mal quand même.
Si tu étais une chaussure ?
La Paraboot.
Et tu les portes même en été ?
Je les porte tout le temps.
En été, je t'ai vu, je t'ai croisé une fois lorsqu'on allait voter.
Oh my god.
Tu avais des Birkenstock dans les pieds.
Des Birkenstock, ouais. Mais franchement, c'est hyper agréable. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas le truc le plus sexy du monde, mais
c'est confort.
Qu'est-ce que tu te sens bien dedans ?
Si tu étais une matière.
Un gros drap de laine.
Si tu étais un vêtement. Tout simplement.
Un t-shirt.
Si tu étais un accessoire de mode.
Ben, un sac à main, un crossbody. Un crossbody, c'est les petits sacs que tu peux mettre en travée. Petit, compact, efficace. Moi, je suis dans l'efficacité. Hein. Mm-hmm. Non, mais c'est comme le t-shirt, tu vois. C'est simple, c'est
chic,
compact.
Efficace.
Ouais, exactement.
Si tu étais un héros ou une héroïne. Tout à l'heure, tu nous parlais de Pierre Rabhi. Et une héroïne.
Une héroïne, Greta Thunberg, non?
Ouais. Un adjectif qui te caractérise.
Gentil.
Gentil, c'est vrai, je peux le confirmer. Quelle est la prochaine étape pour Adrien Garcia, ce jeune homme pressé, qu'il est un peu moins.
Qu'il est un peu moins, ouais. La prochaine étape, c'est une grosse année quand même, hein, parce qu'on se marie.
Ouais, la totale mariage en
ouais,
plus.
Ouais. Il faut confirmer réunis sur le prochain lancement de produit.
Ça te stresse ?
Non, je suis
pas le mariage, hein,
ouais,
réunis.
Non, je suis confiant. Je suis stressé. Bah, il faut se mettre un peu la pression. Donc oui, c'est un peu stressant. Mais je trouve qu'on a passé cette première étape de vendre 750 pièces. C'est un côté, c'est satisfaisant, mais c'est surtout c'est un côté rassurant Et parce qu'au début, la première fois que tu lances un produit, tu sais pas si tu vas en vendre 10, 20, 30, 100, 200, 1000. Mmh. Et t'as toujours peur que ça soit un gros flop, tu vois. Mmh. Et 750 pièces, bon, c'est pas non plus, t'en as pas vendu 10 000. Mais il y a un côté rassurant, quoi. Tu te dis, bon, ça plaît, les feedbacks sont plutôt très positifs. Donc, c'est un côté rassurant. Et tu sais qu'il y aura une partie de ces gens-là déjà qui vont venir et qui seront au rendez-vous pour le prochain lancement de produit. Donc, je suis moins stressé. Mais après, il faut rester sur le qui-vive, quoi. Tu vois, il ne faut pas s'endormir. Hein.
Donc, prochaine étape, la chemise.
Prochaine étape, la chemise, ouais.
Et entreprendre la mode continue.
Entreprendre la mode continue et accélère. Non, ça continue.
Accélère.
Non, ça n'accélère pas, mais c'est... J'ai envie de continuer ce truc-là parce que déjà, moi, j'adore faire ça, j'adore rencontrer les gens. En fait, j'adore les gens. Donc, rencontrer des gens qui m'impressionnent et qui ont des histoires folles, ça m'éclate. Et moi, ça me nourrit sur la vie et sur Réunis, tu vois. Donc, je continue à fond, bien sûr.
C'est une jolie conclusion. Merci infiniment, Adrien.
Ben, merci pour ton accueil.
Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Exactement.
Comme Adrien.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.